On va démarrer un atelier sur la douleur et la performance. Si on définit la santé comme le bonheur, celui-ci arrive rarement sans dommage. Si on définit la compétition comme une situation de stress réglementée et organisée par l'environnement social auquel on se soumet volontairement, la douleur est plus difficile à définir. C'est une sensation subjective dont on sait les voies. Mais qui peut être au propre ou au figuré, qui peut être physique comme moral. Et donc, je vais être très intéressé par les témoignages et les présentations de ce matin. Et compte tenu de nos contraintes, je demande à tout le monde de se maintenir dans les timings prévus. Et on va de suite donner la parole à David Douillet, qui, je pense, a plus infligé de douleur qu'il n'en a subi. Mais on se souvient néanmoins que vous avez vécu une blessure qui est venue abîmer une saison, et donc on est curieux de vous entendre.
Merci. Le temps, c'est 20 minutes, c'est ça? D'accord. Je suis juste là pour venir faire un petit témoignage de ce que j'ai vécu dans ma vie d'athlète de haut niveau. Et pour cela, on va commencer dès le départ. Le départ, c'est une discipline qui devient une passion, donc un sport qui devient une passion. Et puis ensuite, une deuxième passion qui arrive, qui est la compétition. Et c'est bien à distinguer entre la passion du sport et la passion de la compétition. C'est une autre passion qui vient se juxtaposer, mais elle est différente, de par l'engagement et de par les choses qu'on est capable de faire pour arriver à ces objectifs. Un petit historique. Le premier stage que je peux faire, que je fais lorsque je suis jeune athlète, j'ai 14 ans. Pour moi, le judo, c'est un entraînement, deux entraînements par semaine à l'époque. Bon, je commence à pointer le bout de mon nez au niveau départemental, au niveau régional, rien d'extraordinaire. Et puis là, j'ai un stage, on m'invite à un stage interrégional, un niveau que je ne connais pas trop. Bref, je ne sais pas trop ce qui se passe. Bref, je me retrouve dans un creps pendant 4-5 jours, coincé entre Noël et le jour de l'an. Et puis là, c'est un choc, mais ahurissant. Ou, c'est sans doute compte tenu du personnage qui encadrait le stage, en tout cas des deux personnages qui encadraient le stage, où on a un individu qui revient du Japon, un entraîneur donc, qui a là-bas lui-même dû affronter ou subir un certain nombre de comment je dirais, d'agression. À l'époque, donc il y a de ça 26 ans, hein. À l'époque, les stages au Japon étaient. Et ceux qui partaient au Japon étaient connotés d'une aventure extraordinaire, mais aussi d'une dureté à l'entraînement extrême infligée par le système japonais. Et cet individu a voulu répercuter un petit peu ce qu'il avait vécu sur nous, 14 ans. Donc c'était assez particulier. Levé 6 heures du matin, sans déjeuner, footing pendant 14 à 15 kilomètres, dont à peu près la moitié dans le sable, ponctué au milieu d'exercices en côte et dans des marches où il y en avait exactement 376. J'ai eu le temps de les compter. Et ça, avant le petit déjeuner, ça a duré la séance près de 2 heures. Petit-déj, ensuite petit-déj avalé. On avait déjà le kimono sur le dos. Et là, séance de judo au sol, où chaque individu, en tout cas celui qui traînait un peu la patte après la petite séance de footing le matin, se voyait infliger des étranglements. En judo, on a le droit d'étrangler. Ça fait partie du jeu. On a le droit de porter les armes blocs, de porter les articulations en porte-à-faux. Mais pour les tirs au flanc, ils étaient étranglés par ces 10 entraîneurs jusqu'à ce qu'ils tombent dans les pommes, pour être clair. Voilà ce que c'était. Donc, ils tombaient dans les pommes, ils prenaient des claques dans la figure pour les réveiller, et ça redémarrait. Voilà. Ça, c'est le premier jour que j'ai compris et j'ai vécu ça. Je me demandais ce qui se passait. L'après-midi, judo aussi, debout, 2 heures. Donc là, on en était à 6 heures déjà d'entraînement, 14 ans. Et le soir, après le dîner, rebelote, 1 heure d'entraînement, de répétition de mouvement, etc., etc. Dès le premier soir, dès le lendemain matin, des gens ont simulé des blessures. Et au bout de 2 jours, de 48 heures de ce régime-là, certains ont pris des médicaments pour se rendre malades. Pour vous dire à quel point il y a eu pas mal de dégâts. Moi, ça a été un vrai choc. Ça a été un truc de fou, comme si j'avais pris un tsunami sur la tête. Je passais de la pratique plaisir à de la barbarie, quoi. Voilà, pur et dur, quoi. Et ça m'a pas dégoûté. C'est ça qui est le pire, quoi. C'est terrible. Ça ne m'a pas dégoûté. Bien au contraire, j'avais surtout pas envie d'être étranglé comme les autres. J'écoutais absolument tout ce qu'on me disait. J'ai essayé de me surpasser tant que j'ai pu. Et j'ai fini les 4 ou 5 jours de stage de l'époque dans un état monstrueux. Mais en ayant vécu quelque chose. Alors, avec du recul, 26 ans plus tard, je m'aperçois que c'est complètement débile d'avoir pu faire ça. Mais à l'époque, je considérais que j'avais vécu un espèce de droit d'entrée, une espèce de validation dans le début de ma carrière, enfin de ma carrière entre guillemets, puisque ce n'était qu'au niveau interrégional, dans le début d'une éventuelle carrière de haut niveau. Et pour tout vous avouer, je n'ai jamais rencontré depuis des moments aussi difficiles psychologiquement et à l'époque physiquement parlant. C'est un truc qui m'est resté gravé fortement dans ma mémoire et qui reste gravé dans toute la mémoire des autres, parce que quand je rencontre encore quelques-uns de mes camarades dans mon milieu, on en parle assez souvent, quoi. C'est un truc qui nous a vraiment marqué. Mais bon, on pensait que ça faisait partie de Donc voilà mon entrée un petit peu dans le haut niveau, pour rapidement vous symboliser les choses. Donc effectivement, ça fait partie, tout de suite, la douleur et la peur de la douleur, donc la douleur psychologique et la douleur physique, ont été tout de suite étroitement liées. On avait tous la peur au ventre, on n'arrivait plus à bouffer le midi, on avait du mal à s'endormir le soir parce qu'on avait peur du lendemain. Je vous assure que le lever du matin pour partir au footing était quasi immédiat, tout le monde était quasiment prêt. D'ailleurs, il y en avait qui s'habillaient et qui dormaient avec le short et les chaussettes, parce que celui qui était en retard, il allait payer toute la journée, quoi. Enfin, c'était ça, quoi. C'était vraiment, c'était pas un stage commando, c'était un stage de fou furieux, quoi, vraiment. Mais bon, on a passé le truc. Et puis ensuite... L'évolution aidant, mon intégration en sport-études, et puis ensuite à l'Institut National des Sports, m'ont semblé plutôt facile en comparaison de ce que j'avais vécu pour la première fois dans un stage. Et je dois vous avouer que ça m'a aidé, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pour ceux dont je faisais partie, j'ai eu la chance d'en faire partie, d'avoir passé ce cap-là, ça m'a aidé, parce que tout ce que j'ai vécu après, j'ai vu encore des gens au cours de leur progression, que ce soit à l'INSEP ou en sport-études, craquer parce que c'était trop dur, craquer parce que c'était trompé de voie, craquer parce que psychologiquement ils ne tenaient pas la route, etc., etc. Et à chaque fois, moi personnellement, je faisais référence à ce que j'avais vécu comme ce premier sas, et j'étais bien loin de ce que j'avais vécu auparavant. Donc ça, quelque part, ça m'a aidé tout au long de ma carrière, même si c'était extrêmement barbare. Voilà pour la petite introduction sur ce que j'ai pu vivre dans mon milieu. Alors après, il y a quelque chose d'extrêmement culturel dans le milieu du judo, et je sais que ça fait partie de beaucoup de disciplines. À partir du moment où on ne souffre pas dans une activité physique, dans une séance, quelle qu'elle soit, culturellement, ça a changé depuis, heureusement, mais culturellement, avant, on considérait que vous n'aviez rien fait, quoi. Et on se sentait coupable de n'avoir rien fait. On avait l'impression de ne rien faire. C'est-à-dire qu'il fallait obligatoirement souffrir à l'entraînement pour avoir l'impression de s'être bien entraîné. Et c'est quelque chose, enfin, c'est une notion assez bizarre compte tenu des modes de préparation plus évolués et modernes, parce que ce n'est pas le cas, qu'à l'époque, un bon entraînement, c'était un entraînement où on était éreinté, fatigué, cuit, crevé, et dans lequel on avait beaucoup souffert. Voilà, ce n'est absolument pas le cas. Parce qu'aujourd'hui, quand vous faites une séance de vitesse, ou des séances extrêmement qualitatives physiquement, au contraire, à la fin de l'entraînement, vous êtes plutôt frais, et vous en demandez. Mais puisqu'on travaille dans des secteurs physiologiques extrêmement précis et pointus, la rapidité, la vitesse et quelquefois la force en musculation, vous n'êtes pas forcément éreinté et fatigué après une séance quelle qu'elle soit de ce type-là. Mais c'était une idée reçue, et les entraîneurs, mes entraîneurs, les entraîneurs de ma génération ont été éduqués comme ça, et nous avons été éduqués de cette façon-là. Donc, mais bon, on était habitués, on n'y pensait même plus. L'ensemble de mes équipiers, on a passé toute notre carrière à souffrir. Vraiment. Mais ça faisait partie du boulot. C'est-à-dire qu'on n'y pensait même pas. Mais pas du tout. C'était normal. On a passé toute notre carrière à, tout à l'heure Serge le disait, à ne jamais se plaindre. Parce que la blessure, donc la souffrance, là je vais dire la souffrance spécialisée, ça faisait partie du jeu aussi. On a fait partie de cette éducation-là. On ne s'arrêtait pas, on ne s'est jamais arrêté de s'entraîner à cause d'une blessure. On faisait varier l'entraînement, on essayait de contourner le problème physique, mais on continuait à s'entraîner. Et pour la compétition, de la même manière. Et je pense que c'est commun je pense que c'est surtout commun à une génération, parce que dans beaucoup de disciplines, c'est le cas. Donc, la souffrance, la douleur dans mon activité, dans nos activités, faisait partie du jeu, quoi. Et ont toujours fait partie du jeu. Et je dirais même que c'était une valeur. C'est-à-dire que on était capable de s'étalonner par rapport à cette douleur. C'est-à-dire que quand la douleur, la souffrance et la douleur commençaient à naître après avoir fait tel ou tel type de progression, plus tard ou plus tôt que d'habitude, eh ben, on se disait je suis plus en forme ou moins en forme, ou j'ai progressé. Ce qui est un peu vrai d'ailleurs. Ce qui est un peu vrai. Donc en fait, dans ma génération, la douleur était une unité de mesure par rapport à ce que je faisais, par rapport à ce qu'on faisait. Et cette unité de mesure-là, dans ma discipline, où c'est une discipline extrêmement, comment vous expliquez ça, c'est très, très lactique, enfin, un combat de judo, c'est un 400 mètres pendant 5 minutes, quoi, grosso modo, au niveau impact physiologique. Donc c'est extrêmement violent comme pour le corps. Et toute ma carrière, je n'ai eu de cesse, on nous faisait faire des séances pour essayer de reculer le plus possible cette barrière de la dureté, du mal, de la souffrance qu'on rencontrait évidemment en compétition aussi. Et c'était celui qui acceptait le mieux, qui arrivait à gérer ça le mieux possible, c'est-à-dire pouvoir réfléchir en ayant mal, en ayant un cardiaque à 200 pulsations minute, avec des douleurs, avec des mains qui n'arrivent plus à se fermer, avec des jambes qui se tétanisent, etc., etc., qui, en fait, arrivaient à gagner certains combats. Et c'est vrai. Et c'est vrai, dans la pratique, c'est comme ça que ça se passe. Vous avez le technicien qui clôt son combat rapidement, parce qu'en judo, on peut gagner par ippon, et c'est le chaos. Et là, les choses s'arrêtent. Puis vous avez les mineurs de fond qui n'ont pas suffisamment de technique, mais qui gagnent de la même manière en usant l'adversaire, en allant jusqu'au bout, en l'épuisant physiquement, en l'érodant. Et puis, au bout de 5 minutes, le type qui est en face craque et commet une faute et ça gagne. Donc, voilà une manière, mais par la physique et la douleur, de gagner un combat de judo. Et cette valeur-là, il a fallu continuellement la faire progresser, on y passait tous, hein, la faire reculer, le seuil de cette douleur-là, le seuil de cette souffrance-là, pour garder de l'efficacité et un maximum d'efficacité jusqu'au bout. Donc, c'est drôle, hein, toute ma carrière s'est passée dans la douleur. Je n'avais pas vraiment pensé jusqu'à aujourd'hui, mais en fait, c'est un peu ça, quoi. Donc voilà, oui, c'est ça. Donc, on avait vraiment une culture de la souffrance, sans s'en rendre compte, une culture de la souffrance. Et, enfin, sans s'en rendre compte, si on s'en rendait compte, parce qu'il suffisait qu'on arrête, là, quand on était vraiment blessé et incapable de s'entraîner, 15 jours ou 3 semaines, pour qu'à la reprise de l'entraînement, on sente une souffrance et une douleur physique plus intense. C'est-à-dire que je considère, enfin j'affirme même que le corps s'habitue à la douleur. Voilà. Et s'habitue très vite à la douleur. Quotidiennement, que ce soit en judo, en rugby, enfin les sports de contact, on prend des coups, des petits coups, des coups de pied, des griffures, on se tord les doigts, on se tord toutes les articulations d'ailleurs, votre peau est râpée par le kimono, donc ça vous fait des brûlures, etc., etc. Et donc tout ça, c'est des petites douleurs, mais quand vous entraînez tous les jours, vous ne les sentez plus, ou pas, ou quasiment plus. Dès que vous arrêtez pendant 15 jours ou 3 semaines, quand vous reprenez, bah, mon Dieu, vous sentez tout, enfin, vous êtes à fleur de peau, et vous dites, mon sport, il me fait mal, quoi. Et pourtant, lorsqu'on s'entraîne tous les jours, on n'y pense plus. Mais plus du tout, hein. Plus du tout. Dans des cas extrêmes, en compétition, et ça je me tourne vers les scientifiques, il arrive souvent que des gens se déboîtent un bout de doigt ou s'arrachent un bout de peau, et moi ça m'est déjà arrivé, on ne sent pas, quoi. On ne sent rien, il n'y a pas d'information. On s'aperçoit après le combat. Alors après, oui, ça vient. Hein. On s'aperçoit après le combat qu'on a le doigt qui est à l'équerre, ou que votre épaule, elle est sortie, subluxée, mais... et puis la douleur arrive là. Mais pendant la période, le moment où mentalement on n'est peut-être pas axé là-dessus, ou je ne sais pas comment on explique ça, il n'y a pas de douleur du tout. Voilà. C'est plutôt avantageux, mais enfin, en tout cas. Bon. Donc le corps accepte la douleur. Le corps. Gère la douleur. J'en viens à dire, et j'en viens à conclure, que la douleur est subjective, je crois. La douleur est une habitude, ou pas. La douleur est une acceptation. La douleur est extrêmement liée au mental. On a une forme de mental pour accepter ou pas la douleur, tout simplement. J'en viens à dire aussi que le mental a une incidence sur la douleur. Et là, je m'explique. J'ai eu un accident de moto, où moi, j'étais hospitalisé 15 jours. J'avais un trou dans le mollet, enfin, j'ai eu le mollet déchiqueté, donc avec une grosse plaie. J'ai eu la jambe immobilisée pendant 6 semaines. Et j'avais ce trou dans le mollet. Bon. Alors, je suis pas du tout un surhomme. Hein. Et ce que je vais vous dire, ça a été constaté par un chirurgien renommé qui s'appelle le professeur Christel, qui s'est occupé de mes différentes opérations que j'ai pu avoir et qui lui a constaté tous les 48 heures, pour être précis, l'évolution d'un truc très visible, ce trou que j'avais dans le mollet. Voilà. Donc il me dit, voilà, ce trou, c'était une espèce de nécrose, un truc qui creusait le mollet, ça se guérit pas bien parce que c'est mal irrigué, etc., etc., c'est ce qu'il m'a expliqué. Il avait, lui, grosso modo, préconisé 5 à 6 semaines de délai pour que ça se referme, quoi, pour que... voilà, j'ai plus de trous dans le meilleur des cas. Et puis, il m'avait expliqué aussi que le fait d'avoir une jambe immobilisée pendant un mois et demi, parce que j'avais les ligaments et les tendons qui avaient été sectionnés, etc., probablement, je devrais porter des... Enfin, en tout cas, me servir de béquille, etc. Dans ma tête, j'avais un championnat du monde à réaliser... En septembre, j'ai eu l'accident 2 mois après les Jeux en 96. Donc en fin septembre 97, je suis passé du stade d'athlète de haut niveau à handicapé, parce que j'étais en chaise roulante, etc. Et un an plus tard, quasiment jour pour jour, j'avais un titre de champion du monde à défendre. Toutes les 48 heures, il me découpait ma résine pour soigner la plaie. Voilà, donc j'avais un truc qui était enfin une résine coupée en deux, que je cassais régulièrement d'ailleurs, parce que j'étais tout le temps en train de bouger. Je ne pensais qu'à une chose, j'avais qu'une idée en tête, c'était ne pas perdre ma masse musculaire. Tant et si bien que je lui avais demandé d'ailleurs à l'époque de me faire des carrés pour pouvoir poser des électrodes sur la peau à travers ma résine, pour stimuler ma masse musculaire, même si elle fondait quand même. Mais en tous les cas, voilà, j'étais dans ce trip-là, quoi. Vraiment, j'étais dans un trip de sauvetage à tout prix, quoi, pour avoir le maximum de chances de pouvoir défendre mon titre. Et je me souviens être allongé dans mon lit, comme ça, avec l'épaule bloquée, parce que j'avais l'épaule démolie aussi, être totalement en train de bouger tout le temps, le talon, la cheville, le bout du pied, etc. Parce que dans mon esprit, je me rééduquais, je perdais pas mes terminaisons nerveuses. Enfin, j'étais, je m'entraînais, quoi. Voilà. Je m'étais débrouillé chez moi lorsque je suis revenu de l'hôpital pour avoir tous les appareils utiles ou inutiles pour pouvoir me rééduquer. Donc, chez moi, mon salon c'était mieux équipé qu'une salle de kiné, c'était du délire. Et puis voilà, quoi, j'étais dans ce trip-là. Bon. Tous les 48 heures, lorsqu'il m'enlevait cette résine, le trou se résorbait. Tant et si bien que le trou s'est résorbé en 3 semaines. Donc, 2 fois moins de temps que ce qu'il avait prévu. Je lui ai rien dit sur le coup, rien du tout, mais je le savais. Je me souvenais bien de ces 6 semaines. Et puis au bout de 6 semaines, lorsqu'il m'enlève le plâtre, qu'il contrôle, etc., etc., il me dit, écoutez, je vous fais une ordonnance, vous allez vous chercher une paire de béquilles, etc., je vous revois dans 48 heures. Voilà. Je monte dans la voiture et je me souviens avoir dit à ma femme, écoute, on va aller directement voir le kiné, les béquilles, on verra ça plus tard. Je vais voir le kiné, donc ça faisait 6 semaines que je n'avais pas posé le pied par terre, je vois le kiné, on commence à travailler, etc., sur l'épaule, puis ensuite on commence doucement sur la jambe, et je lui dis, écoute, j'ai pas envie de prendre de béquilles, je pense que je vais marcher. Il me dit, mais c'est pas possible, quoi, enfin, je dis, non, je suis convaincu, je peux marcher, je crois que je vais marcher. Je sais pas pourquoi, mais je suis convaincu, voilà, et je vais marcher. Et je me suis levé, j'ai fait des pas un peu incertains. Et lui m'engueule. Il me dit, mais t'es vraiment un con, va chercher des béquilles, tu prends des risques, etc. Je vais à ma voiture en marchant en brinque-ballant. Mais je marche un peu mieux. Je sors de ma voiture chez moi, je marche un peu mieux encore. Et l'après-midi, je marchais quasiment, pratiquement normalement. Et 2 jours plus tard, lorsque je revais voir... le chirurgien, le professeur Christel. Je suis installé dans le bureau avant qu'il arrive, parce qu'il est en consultation. Il arrive dans le bureau, Il avait dû être prévenu par ma femme, je pense. Et tout de suite, il m'attaque, il me dit, sont où les béquilles? Je lui dis, j'en ai pas. Je marche. Montrez-moi. Je fais 4 ou 5 pas devant lui. Il dit, oui, vous marchez. Voilà. Et je lui dis, vous vous êtes trompé sur ma cicatrisation aussi. Il me dit, non, je ne me suis pas trompé. Je lui dis, alors pourquoi j'ai cicatrisé plus vite? Mais il me dit, c'est pas la première fois que je vois ça chez un athlète de haut niveau. Point. C'est comme ça. De ce jour-là, j'ai eu la preuve, moi, physiquement sur moi. Je suis convaincu que je ne suis pas un surhomme du tout, hein, vraiment, je ne suis pas là pour vous. Mais je suis convaincu que le mental et la motivation a une incidence réelle, mais réelle, sur le physique. C'est-à-dire que je pense qu'on ne connaît pas encore les mécanismes, on ne les explique pas encore, ou peut-être que vous les avez trouvés, j'en sais rien, mais en tout cas, moi, je l'ai vécu. Là-haut, quand on décide de faire quelque chose sur le corps, eh bien, il y a des choses qui se mettent en place. Voilà. Ça, c'est très clair, j'en suis certain. Et d'ailleurs, à l'inverse, lorsque là-haut, ça ne fonctionne pas correctement, et ça, je l'ai vu chez pas mal de mes amis, je peux vous assurer aussi que je pense que ça fonctionne à l'inverse. C'est-à-dire que le cerveau doit aussi être capable de créer des pathologies sur le corps. J'en suis quasiment certain. Très logique, d'ailleurs. Et, plus pragmatiquement parlant, je suis quasiment certain que lorsque ça ne marche pas là-haut, on se met, lorsqu'on est athlète de haut niveau, en réel danger, physiquement parlant, sur la blessure. C'est-à-dire que l'engagement et le niveau doit être tel que, en tout cas dans le sport de combat et dans les sports à choc et à risque, mais même chez un coureur, hein, l'engagement doit être tel que si vous n'êtes pas à 110% de votre mobilisation mentale, vous êtes en risque. Et généralement, quand il y a quelque chose qui ne va pas, les gens se blessent, tout simplement. Alors que si ça va bien dans votre caboche, vous êtes quasiment indestructible, ça se passe correctement. Et ça, moi je l'ai vu sur un athlète qui, systématiquement, lorsqu'il était sélectionné pour un grand rendez-vous, se blessait systématiquement. Pourquoi ? Alors, certains disaient, il n'a pas de bol. Il n'a vraiment pas de chance, à chaque fois qu'il est sélectionné, il se blesse. Non, il flippait. Il avait peur. C'était le meilleur, c'était le champion du monde à l'entraînement, le plus fort, vraiment. Au niveau national, le plus fort, le meilleur. Dès qu'il était sélectionné pour un rendez-vous international, Europe, monde, jeu, il se blessait systématiquement. Systématiquement. À tel point qu'il n'était plus sélectionné par les entraîneurs, me l'ont avoué, parce qu'il savait qu'il allait se blesser. Alors, personne ne mettait de cause à effet, mais c'était évident, quoi. Évident. Et pour conclure, parce que le temps passe vite, j'avais tellement de choses à vous dire, je suis désolé. La seule et unique chose qui nous fait avaler, endurer, accepter toute cette souffrance, toutes ces douleurs, comme l'a dit Serge tout à l'heure, moi j'ai passé ma vie à faire des compétitions blessé. J'ai tout le temps été blessé. Des petits pets à droite, à gauche, les hernies discales, etc. etc. Dernière anecdote, ma dernière compétition à Sydney, quand je prends ma douche le matin, j'ai mon bras droit qui se bloque au niveau du coude. Parce que 10 ans avant, j'ai eu une subluxation, j'ai des morceaux de cartilage qui ont grossi, et je me bloque le coude à 4 heures de mon premier combat aux Jeux Olympiques. Je ne pouvais plus le bouger. Voilà. Et d'un seul coup, j'ai une poche comme ça, parce que je déchire la capsule sans doute, une poche comme ça qui se forme, on me la ponctionne, on me la bande, on me la compresse, puis je monte sur le tapis. Et puis là, je sais que j'ai une épée de Damoclès pendant 6 heures de compète, mon bras peut se bloquer à n'importe quel instant. Voilà, ça a été toute ma vie, quoi, de compétiteur. Puis c'était la vie de beaucoup de compétiteurs. Mais tout ça, on l'accepte et on le digère et puis on le met de côté et puis on est capable de se mobiliser mentalement pour l'oublier, pour aller au-delà de tout ça, pour aller repousser les limites parce qu'on rêve comme des fous, parce qu'on est des passionnés, des fous furieux et que tout ça, on est capable de l'accepter pour aller décrocher les timbales, quoi. Voilà.
Merci beaucoup. Comme on doit vous laisser partir, on va limiter à deux questions assez succinctes, s'il vous plaît.
Oui, vous avez parlé justement de cette capacité à pouvoir accepter une souffrance, particulièrement parce que je dirais il y a un objectif derrière et on essaie d'imaginer en fait l'avenir. Mais est-ce que, et donc je pose la question un peu à toute la table, je pense, est-ce qu'il n'y a pas également chez certains sportifs une sorte de masochisme en fait, qui justement prend du plaisir à souffrir, qui à mon avis est une autre motivation que celle-là. C'est pas la même approche de la souffrance.
En fait, c'est vrai, on a du plaisir quand ça s'arrête, en fait. C'est qu'on souffre, c'est ça, hein, c'est un peu ça. Hein, c'est pas pervers, mais il y a un tel, tu sais, hein, y a un tel plaisir quand t'arrêtes de souffrir, et une telle, enfin, il y a des hormones qui provoquent ça aussi. Hein, y a une notion de plaisir. Mais je crois que faut pas non plus tomber dans ce piège-là, parce que je pense qu'on arrête notre carrière aussi parce qu'on en a marre de souffrir. Parce que le sac devient de plus en plus lourd, le short est de plus en plus difficile à mettre, parce qu'on se fatigue, parce que ça devient trop dur. Et on sent que le ressort est distendu à ce moment-là, quoi. Quand le poids de l'entraînement est trop lourd à supporter par rapport à cet extraordinaire plaisir éphémère qu'est la compète, quoi. Et quand je parlais de double passion tout à l'heure, c'est extrêmement important. C'est pour ça que, enfin, en élargissant un peu les choses sur d'autres sujets, mais quand vous avez des sportifs qui font des sports sans motivés par les parents ou des parents qui vivent à travers leurs enfants, etc., etc. Je pense que c'est jamais bon à tous les niveaux. Et puis, je pense qu'ils ne peuvent pas aller trop loin parce que... ou alors, c'est des gens extraordinaires. Parce que, enfin, c'est tellement dur d'accumuler cette masse d'entraînement pour pouvoir être le meilleur que si la passion n'est pas là, moi, j'aurais été incapable de le faire. Mais incapable de le faire. Tellement dur, c'est pas possible, quoi.
Et maintenant que vous avez arrêté la carrière de haut niveau, vous avez dit que cette carrière, ça a été de la douleur, mais est-ce que ça vous manque, les entraînements ? À condition que vous ayez continué d'arrêter totalement l'entraînement ?
Pas du tout.
Pas du tout ?
Oh là là, non. Moi, je fais partie de ceux que vous avez décrits tout à l'heure, d'ailleurs, ça se voit un peu. je suis content de ne plus m'entraîner, vous ne pouvez pas savoir.
Et vous faites du sport, d'autres activités sportives ?
Oui, parce que j'ai un ventricule gauche comme ça, etc., etc., du lard un peu comme ça aussi. Donc j'ai décidé c'est une autre approche, j'ai décidé de m'entretenir, voilà, de faire attention. Mais j'ai quand même mis 8 ans à comprendre ça. Je voulais plus rien faire, je voulais plus suer, je voulais plus m'entraîner, ras-le-bol, plus rien, plus de muscles, plus de footing, marre, overdose totale. Par contre, la compétition me manque horriblement, parce que voilà, et vous êtes obligé d'arrêter ce que vous savez le mieux faire au monde, ce qui vous plaît le plus au monde, et ça c'est terrible. Bon, c'est un autre sujet, hein. Mais comment ? L'année prochaine. Et mais alors, par contre, l'entraînement, alors là, qu'est-ce que c'est bon de rien faire. Ouais.
Oui. On doit vous laisser partir. Merci encore.
Merci à vous.
Donc la communication que je vais vous présenter, c'est une communication qui a été construite et réalisée à quatre mains, en compagnie de Bruno Papin, qui est maître de conférence à l'UFR STAPS de Nantes, qui est ici présent. Moi, je suis moi-même chercheur doctorant à l'Université de Nantes aussi en sociologie. Donc c'est un travail qui s'inscrit dans une perspective résolument sociologique et qui s'intitule « Temps sportif, santé du champion et logique de l'urgence ». Alors on va essayer d'aborder de façon sociologique un certain nombre de choses qui ont déjà été vues et dites, hein, dans les témoignages qu'on a pu entendre. David Douillet a dit un certain nombre de choses qu'on va sans doute revisiter d'une façon très sociologique. Alors pour débuter, Bon, l'organisation de vie du sportif de haut niveau met l'investissement sportif au centre de ses activités quotidiennes et a pour corollaire un rapport au corps qui est complètement finalisé et ajusté à la performance et qui prend tout son sens finalement dans l'acharnement auquel l'athlète s'adonne sans relâche pour muscler, assouplir, modeler son corps et anticiper ses performances par son travail. Alors ça a été évoqué, hein, effectivement, si la régularité et l'intensité de l'entraînement conditionnent très clairement l'accès à l'excellence sportive, inversement, un excès de préparation ou une préparation qui est non adaptée ou moins adaptée aux dispositions et caractéristiques du champion, sont évidemment susceptibles d'engendrer un certain nombre de blessures qui sont plus ou moins graves dans l'instant ou dans la durée. Autrement dit, ça a été évoqué, je pense que les témoignages ne peuvent pas dire le contraire. Autrement dit, l'un des principaux paradoxes auxquels est soumis le sportif de haut niveau, c'est de devoir user de son corps sans jamais l'user. User de son corps sans l'user. Et le sportif, et ça Loïc Vacan le rappelle très bien dans son travail sur la boxe, le sportif navigue entre deux écueils, également dangereux, d'autant plus qu'ils sont invisibles, variables dans le temps et en grande partie subjectifs. D'un côté, un excès de préparation qui dilapide vainement les ressources et raccourcit inutilement la carrière. Et de l'autre, un défaut de discipline et d'entraînement qui accroît les risques de blessures graves et compromet les chances de succès en laissant inexploiter une partie des capacités. Avec Bruno Papin, nous pouvons voir très clairement dans la gestion de cette contradiction le principe directeur de l'action conjuguée des dirigeants, des entraîneurs, des préparateurs physiques ou mentaux et de l'ensemble de l'équipe médicale. Cependant, l'observation des pratiques quotidiennes des sportifs de haut niveau interroge cette perspective. Pour produire de la performance, et on l'a très bien compris, il est indispensable de fournir un travail, et c'est bien le travail dont il faut parler, dont la charge importante sera source d'une multitude de douleurs et blessures de gravité variable. Dès lors, et ça a été évoqué par David Douillet, la résistance aux diverses blessures se présente comme un élément fondamental constitutif du savoir-être corporel des sportifs de haut niveau, signe de l'inculcation de ce qu'on appelle en sociologie l'habitus du champion qui repose sur une assise de vie marquée. On dit le rapport à la douleur est issu d'une construction sociale. Alors, j'ai le micro qui flanche en plus de tout ça. On va s'en sortir. Produit de l'intériorisation de l'espace de la haute performance, le traitement que les sportifs font subir à leur corps s'inscrit dans une perspective de santé qui est définie dans l'urgence, celle-là même qu'impose la logique du temps sportif. Le savoir-être corporel qu'ils ont intégré inclut un rapport à la santé et au bien-être physique qui prend sens dans l'urgence propre au calendrier des compétitions sportives, sans que les sportifs ne considèrent leur équilibre corporel à plus long terme, autrement dit au-delà des échéances sportives compétitives. Alors, cette perspective de travail s'inscrit, donc, je vous l'ai dit, dans une approche sociologique qui repose sur un travail empirique, un travail de terrain, qui croise deux approches, deux modes de recueil de données. Alors d'abord, un vaste recueil de données qui sont issues d'entretiens semi-directifs de recherche, et puis tout un versant qui repose sur des observations ethnographiques dans diverses structures sportives. Alors pour aller très vite, on pourra peut-être en reparler dans la discussion, parce que j'ai l'impression que le temps est compté. Au niveau des entretiens, à deux, on mutualise environ 70 entretiens qui ont été menés auprès de médecins du sport, de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs, etc. Et donc des observations ethnographiques. Alors là, l'enjeu pour le chercheur, c'est évidemment de confronter ce qui est dit à ce qui est fait. Il y a toujours évidemment un fossé entre ce que l'on dit, de ce que l'on fait, de ce que l'on fait réellement. Donc le but du jeu, c'est d'aller un petit peu constater les pratiques pour les opposer aux discours et représentations qu'on a recueillis préalablement. Alors les observations ethnographiques, elles ont eu lieu donc trois pôles d'entraînement de gymnastique, donc pôle France et pôle espoir, un pôle espoir d'entraînement au niveau d'un sport collectif, un club professionnel de football qui dispose d'un centre de formation. Il suffira de regarder la ville de laquelle on est issu pour savoir duquel je parle, mais je conserve l'anonymat. Une équipe de France de sport collectif, une équipe de France féminine de sport collectif, et puis un service de médecine du sport dans un CHU. L'accès au sport de haut niveau est conditionné par l'intégration à un moment donné de la formation sportive et bien d'un centre spécifique d'entraînement, alors qu'il s'agisse de Pôle Espoir, de Pôle France ou de centre de formation. Donc il s'agit bien d'une construction, et cette construction technique et physique du sportif a pour corollaire, et ça c'est très clair, on l'a vu, une augmentation de la quantité de l'entraînement dès le plus jeune âge, au point de s'adonner quotidiennement à une, deux, voire parfois même trois séquences d'entraînement selon les sports, toutes les semaines, et ce durant quasiment toute l'année. Et finalement, l'utilisation exhaustive du temps est un principe de construction du sportif, puisqu'elle pose le principe d'utilisation croissante du temps. Et là, on reprend un principe qui a été évoqué par Michel Foucault dans « Surveiller et punir ». Je vous le donne, il nous explique qu'il s'agit d'extraire du temps, toujours davantage d'instants disponibles, et de chaque instant, toujours plus de forces utiles. Ce qui signifie qu'il faut chercher à intensifier l'usage du moindre instant, comme si le temps, dans son fractionnement même, était inépuisable. Ou comme si, du moins, par un aménagement interne de plus en plus détaillé, on pouvait tendre vers un point idéal où le maximum de rapidité rejoint le maximum d'efficacité. Alors, ce principe qui a été évoqué par Michel Foucault, eh bien, on peut voir ici, hein, c'est exactement cette technique qui est mise en œuvre dans l'organisation du temps sportif, avec l'exploitation maximale du temps disponible, pour permettre toujours plus de séquences d'entraînement, et donc toujours plus de temps utile pour former des corps performants. L'utilisation maximale du temps renvoie à l'intériorisation des sportifs, de leurs conditions de vie, qui revient à penser l'oisiveté, la non-activité, comme une faute morale, un écart à la conduite de vie normale d'un sportif de haut niveau. Car il s'agit bien de normes, et non pas de hors-normes ou de anormes. Enfin, on est bien dans des normes. Le sport de haut niveau nécessite un effort continu, centré sur le corps, de préparation physique et technique. Et le sportif modèle son corps aux exigences spécifiques de la discipline choisie. Il anticipe ses performances par son travail. Et c'est bien de travail sportif dont il faut parler pour mettre en avant l'abnégation du champion afin de préparer son corps à une amélioration pensée sans fin. Dans l'entraînement naît une économie des corps, tout se compte, tout se gère. Tout est matière à bilan descriptif, estimation du travail, des bénéfices du travail. L'entraînement est censé produire des performances par une gestion optimale des intensités, des durées, des alternances. Par le travail, le sportif progresse. Et les valeurs du travail participent ainsi à la pensée de l'activité sportive, conduisant en quelque sorte à une sublimation du travail. La préparation sportive est le commencement et la fin, une souveraine assaise. Le travail est source de plaisir et de satisfaction. Et ce n'est d'ailleurs pas le moindre paradoxe du sport que de jouer sur la dénégation du travail pour valoriser le plaisir d'une activité qui devient elle-même sa propre fin. Dénégation du travail, dénégation de l'instrumentalisation des corps. Le travail sportif est une propriété faite vertu. L'abnégation de l'athlète à l'entraînement disparaît. Seul demeure le plaisir engendré par l'excellence. Alors pour autant, la douleur corporelle, et là on l'a bien compris, est la conséquence directe des conditions de vie objectives des sportifs de haut niveau. L'intensité du quotidien sportif, qui plus est lorsqu'il est ramené à l'échelle des carrières des athlètes, laisse bien évidemment son empreinte dans les profondeurs des corps. Alors nous parlons volontairement d'érosion des corps, d'érosion corporelle, pour caractériser ce phénomène, le sport d'élite, par un mécanisme socio-biologique qui est basé sur l'incorporation d'un ascétisme de vie, une construction de vie, entame très clairement le capital santé des athlètes par une usure continue des corps. Il suffisait d'écouter le travail qui a été proposé par Sébastien Fleuriel et Emmanuel Chautet hier sur les anciens sélectionnés olympiques pour voir les conséquences sanitaires que ça peut avoir dans les corps et dans les esprits. Alors, dès lors, cet état de fait, sous la pesanteur normative de l'espace extraordinaire du sport d'élite, ça il faut bien appuyer dessus, l'espace produit ses propres normes et les impose de façon non consciente, cet état de fait se transforme en un état de droit. La mobilisation sur la production d'un corps performant s'accompagne d'un rapport à la douleur qui va jusqu'à la banalisation de la blessure. On l'a vu encore une fois avec ces histoires de doigts qu'on ne sent pas pendant le temps sportif. La résistance aux diverses blessures se présente alors comme un élément fondamental constitutif du savoir-être corporel des sportifs de haut niveau. Et dès lors, cette conséquence objective des conditions de vie des athlètes se transforme en une valeur fondamentale éminemment structurante qui déterminera en partie la distribution différenciée des positions au sein de l'espace du sport d'élite. la résistance à la douleur et à la blessure se traduisent comme le témoin incontestable d'une certaine valeur sportive. De la maîtrise individuelle du glaçage d'une blessure légère, par exemple, jusqu'à l'arrêt brutal d'une carrière suite à un accident dont la gravité n'autorise plus la pratique du sport à son plus haut niveau, eh bien on voit bien que la gestion de la santé physique détermine la capacité de production de la performance et organise les positionnements individuels. Cette mise en ordre à partir des désordres du corps, eh bien s'accompagne d'un certain nombre d'effets normatifs. Entre une surutilisation organique nécessaire à la victoire sportive et de l'autre côté la préservation de l'intégrité physique pour prolonger au mieux la santé corporelle et mener au plus loin les projets sportifs, eh bien, la gestion de cet éternel déséquilibre se règle dans de multiples négociations et de multiples représentations. On l'a vu avec l'intervention de Serge Simon tout à l'heure, entre ce sportif qui est à la fois homme de verre et en même temps homme capable de supporter l'insupportable. Enfin, bon. Donc, au cœur de la dialectique bonne santé et santé suffisante pour la réalisation de performances à l'instant T, la question de la gestion sanitaire des corps dans le processus de construction des élites sportives semble devoir être interrogée. Alors, devoir être interrogée du point de vue de l'encadrement technique, du point de vue des sportifs eux-mêmes, évidemment, mais aussi, sans doute surtout, du point de vue de l'encadrement médical. Alors, je vais essayer d'aller très vite. En ce qui concerne l'encadrement technique, alors plus particulièrement la figure incontournable de l'entraîneur, eh bien, la gestion ambiguë des corps se manifeste de plusieurs façons. D'abord par un processus récurrent de banalisation de la blessure et de normalisation de la douleur. Il est normal de souffrir, alors David Douillet nous expliquait tout à l'heure, la douleur est une habitude, on est bien là-dedans, hein. Il est normal de souffrir, le bon sportif est celui qui résiste, celui qui est capable de faire avec. Je peux par exemple prendre l'exemple d'un entraîneur de Ligue 1. Le lendemain d'un match de championnat, il improvise une sorte de cours débriefing avec un joueur qu'il croise dans le couloir du centre sportif. L'entraîneur est manifestement déçu par le manque d'implication du joueur lors du match. Le joueur, lui, invoque un mal de dos qui serait susceptible d'expliquer son manque d'implication. L'entraîneur lui explique « Écoute, si tu commences à trop t'écouter, on n'a pas fini, il faut changer de métier. » Bon, on est clairement dans la banalisation, la normalisation de la douleur. Et finalement, le rapport à la douleur devient source de jugement et d'évaluation des futurs champions. Le personnel encadrant est extrêmement sensible à cet aspect, c'est-à-dire qu'un jeune athlète qui fait preuve d'une résistance élevée à la douleur et qui a la capacité de dépasser ses difficultés afin de maintenir son rendement à l'entraînement et dans les compétitions est extrêmement intéressant dans la logique du sport de haut niveau. Je prends l'exemple de Julien, gardien de but de l'équipe des moins de 15 ans du centre de formation d'un club professionnel de foot. Il nous explique très concrètement la façon dont s'opère ce système d'évaluation et de sélection du sportif dans son rapport à la douleur et à la blessure. Alors le contexte, hein, Julien est victime à ce moment-là de la saison de sa troisième entorse acromio-claviculaire. Pour un gardien, c'est un peu compliqué. Il ne peut pas jouer, en tout cas il a très très peu joué. Et il consulte chaque jour, de son propre gré, le médecin du centre sportif. Alors il est évidemment conscient que cette blessure-là, elle aura que peut évoluer d'un jour à l'autre. Et pour autant, il tient par-dessus tout à respecter cet emploi du temps. Alors d'une part, pour se rassurer sur le devenir positif de cette blessure, évidemment, mais aussi et surtout parce qu'il sait, malgré sa très jeune expérience, qu'il fait l'objet d'une surveillance continue. Et je le cite, il me dit, il nous surveille sur tout. Donc aussi sur la façon dont on se soigne. Si on va souvent chez le médecin et le kiné, si on est fort dans notre tête par rapport à la blessure, c'est comme ça que ça marche. Il faut que je leur montre que je suis motivé et que ça ne va pas m'arrêter. Bien, donc finalement le paradoxe du double corps, c'est comme ça qu'on le nomme, paradoxe du double corps, donc celui que l'on pousse mais celui que l'on protège en même temps, joue ici à plein. Dans la mesure où l'on retrouve dans le discours de l'encadrement sportif, eh bien, des stratégies de banalisation, utiles pour augmenter la rentabilité du corps-outil, mêlés à des mécanismes d'évaluation et de surveillance, dont le corollaire direct est une surmédicalisation du corps humain, cette fois, surmédicalisation qui devient stigmatisante dès lors qu'elle ne sert plus directement le projet sportif. Celui qui se blesse trop souvent, celui qui demande à être arrêté, perd de sa rentabilité. Ainsi, encore une fois, pour vous donner quelques exemples et inscrire ce que je raconte sur un terrain, l'entraîneur d'une équipe professionnelle de foot y aperçoit donc l'un de ses joueurs attendre devant la porte du médecin du centre juste avant de débuter une séquence d'entraînement. L'entraîneur l'interpelle et lui dit « Qu'est-ce que tu fais encore là, toi? T'es footballeur ou quoi? Faut changer de métier, hein ?» Alors le joueur répond ironiquement « Ouais, je vais faire chanteur. » L'entraîneur renchérit, ok, c'est ça, c'est bien. Est-ce que tu vas au moins pouvoir t'entraîner ? Bon, le message est extrêmement clair. Une résistance insuffisante aux douleurs et aux blessures est incompatible avec le métier de footballeur professionnel. Et l'entraîneur ne fait que rappeler ici une des lois fondamentales que le sportif a déjà parfaitement intégrée. Le risque à terme, évidemment, pour le sportif étant de s'auto-exclure et d'être exclu du système sportif, une sortie du système. Alors, en ce qui concerne les sportifs eux-mêmes, la gestion paradoxale des corps produit des effets extrêmement similaires. Les techniques d'inculcation de l'habitus du champion, par la banalisation de la blessure et la normalisation de la douleur, que je viens d'évoquer, sont responsables de l'incorporation d'un rapport au corps dans lequel il va s'agir, d'une part, de ne pas trop s'écouter. Les bruits corporels, parce que susceptibles de devenir obstacles à la productivité, doivent être mis à distance. Alors, l'actuel gardien d'une équipe de Ligue 1, que je ne citerai pas, je ne vous donnerai pas le nom en tout cas, nous expliquait récemment « Tu peux avoir des douleurs, mais qui ne t'empêchent pas de jouer. C'est toute la balance entre douleur et conséquence. Si tu as mal, mais que normalement ça ne risque pas de s'aggraver, tu joues. La douleur, on s'y habitue. On ne peut pas faire autrement, il faut vivre avec. Si c'est une douleur et que ça ne peut pas s'aggraver, eh bien c'est pas grave, il faut jouer. » Là, c'est quand même extrêmement intéressant de voir la récurrence de ces propos-là quand on écoutait tout à l'heure David Douillet nous parler de la souffrance corporelle. Alors, d'un côté, donc, ne pas trop s'écouter. Mais à l'inverse, la surveillance et la médicalisation de l'espace du sport d'élite contribuent à l'incorporation aussi d'une surécoute du corps. Alors, cette fois, il s'agit de posséder une conscience aiguisée de son être, de façon à ne pas passer à côté de difficultés susceptibles de s'aggraver. Perturber le décours sportif par un défaut de vigilance est inacceptable. Cette fois, les sportifs développent des connaissances médicales profanes extrêmement pointues et disposent à terme d'un vaste vocabulaire alors qui leur permettent l'identification, la description d'un certain nombre de symptômes. Je passe sur les sportifs, peut-être pour l'encadrement médical, je pense que c'est sans doute ce qui vous intéressera le plus. Dans le paysage sportif, il est évidemment maintenant impossible d'évoquer la gestion de la santé physique sans discuter un instant de la place et du rôle de l'encadrement médical. Alors le problème de simplifier mon propos, c'est que ça va devenir très caricatural et évidemment très critiquable. La question que l'on s'est posée, en tout cas avec Bruno Papin, c'est finalement la suivante. Les médecins du sport de terrain, échappent-ils totalement au projet sportif ? Ou, pour être un peu provocant, vendent-ils leur serment d'Hippocrate au diable ? Alors, il faudrait que j'aille dans la nuance, évidemment, puisqu'il y a plusieurs médecines du sport, c'est un espace qui est complètement éclaté. On parle bien ici des médecins de terrain qui s'inscrivent au cœur des centres de formation, des pôles et des centres de formation. Je n'évoque évidemment pas cette médecine du sport hospitalière, car des discours, des représentations et des pratiques sont diamétralement opposés. On est bien sur le terrain. Et finalement, à cette question, il apparaît assez clairement que le praticien compose entre le code sportif et le code médical. Ainsi, il participe effectivement à la sauvegarde des corps, lorsqu'il prescrit donc des examens complémentaires, qu'il impose des arrêts sportifs, etc. Il met donc sa compétence au service du sportif, de l'individu, mais il met également sa compétence au service du projet sportif. En ce sens, il devient le complice plus ou moins actif du système et contribue à en reproduire les normes. Par son activité même, il renforce la valeur structurante de la blessure et de la douleur. Ça, c'est relativement lourd de conséquences, c'est la raison pour laquelle le simplifier en aussi peu de temps me paraît compliqué. Pour vous donner quelques techniques d'inscription de la douleur en termes de valeur structurante, j'évoque très rapidement plusieurs points. L'influence de certains médecins de terrain dans les filières de sélection à l'entrée des structures sportives. On sait très bien qu'il y a des médecins de pôle qui ont pour mission plus ou moins avouée de réaliser au moment des entretiens d'entrée dans les structures sportives de devoir signaler par exemple des cas de rupture de ligaments croisés dans les antécédents médicaux, et ces cas-là deviennent statistiquement moins fiables physiquement, donc ils ne sont pas recrutés par rapport à d'autres. Donc il y a une sorte de système de sélection un peu discriminant sur la base de sélection d'informations sanitaires qui a lieu dans le système sportif sans qu'il joue, que cette violence symbolique ne soit jamais révélée réellement comme telle. Le médecin, le praticien de terrain, encore une fois, s'inscrit également dans des stratégies de banalisation et normalisation de la douleur. Alors là, il faudrait évidemment rentrer dans le détail, ce qu'on n'a pas le temps de faire, dans l'activité de ce qu'ils appellent eux-mêmes, d'ailleurs, par une euphémisation qui est non sans rapport avec la banalisation de petite bobologie. Et dans cette petite bobologie de terrain, il y a un certain nombre de blessures qui ne sont pas traitées, ou, pour être tout à fait exact, qui sont surveillées, prises en compte, mais banalisées. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de report du diagnostic pour que le sportif s'y fasse, ou alors des douleurs qui apparaissent comme normales, qui sont des douleurs normales d'adaptation du sportif à sa pratique de haut niveau. Il est normal d'avoir la cheville du footballeur, le poignet du gymnaste, le rachis du cavalier, etc. etc. Bien, et surtout, sans doute, ce qui est le plus important par rapport à mon propos du temps sportif, logique de la santé du champion et logique de l'urgence, c'est que le médecin, finalement, dans les structures sportives de haut niveau, participe à inscrire la santé dans l'urgence sportive. Il suffit de penser à la façon dont il utilise son réseau d'interconnaissances professionnelles en faisant jouer son nom, son statut bien souvent, pour réduire le temps qui sépare la survenue d'une blessure et la prise en charge qui lui correspond. Hein, dans des cas classiques, des rendez-vous pour une échographie, un arthroscanner, etc., une IRM, peuvent être extrêmement longs. Dans le domaine sportif, c'est évidemment complètement réduit par le médecin, ce qui est évidemment une bonne chose, on ne peut pas aller contre ça, mais qui participe malgré tout à inscrire la santé et la vision de la santé dans une urgence qui, elle, est propre au monde sportif. Voilà. Alors, j'avais prévu une belle conclusion, je n'aurais pas le temps de faire. Et je suis désolé pour le caractère un peu accéléré de mon propos. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a deux questions très rapides avant de donner la parole à Bertrand ? Oui.
Oui, Stéphane Prétégu, Nantes également, pour ne pas citer le lieu. Je voulais savoir ce qu'il en était, là, tu parles du médecin, effectivement, ce qu'il en était du psychologue dans cette affaire-là, et savoir si lui non plus ne peut pas être phagocyté et participer d'une certaine façon à cette bulle qu'on décrit depuis deux jours maintenant.
Alors, c'est une excellente question. C'est un domaine de recherche sur lequel, effectivement, on commence à se poser des questions. Je ne peux pas faire d'affirmation scientifique ici puisqu'on n'a pas travaillé explicitement dessus. Par contre, en termes d'observation, ce qu'on observe, c'est des choses qui sont finalement assez proches, effectivement. Et en particulier, un certain type de... Alors, je ne sais pas si on peut parler de confusion. C'est toujours un peu délicat de parler de confusion puisque les gens sont relativement conscients de ce qu'ils font. Dans les pratiques, c'est bon. Il y a une opposition, effectivement, entre la question de la préparation mentale et aide à la performance et le suivi pathologique, psychologique, etc. Et effectivement, on retrouve le même type de conflit de code, effectivement, avec des psychologues qui sont très impliqués sur le terrain dans les structures et qui ont parfois bien du mal à faire le distinguo entre cette pratique d'aide à la performance, cette pratique de suivi psychologique. Donc on retrouve cette opposition très très clairement, mais on n'a pas les données scientifiques pour l'affirmer ici, donc c'est un ressenti d'observation. On le retrouve, effectivement.
Une autre question ? Bertrand, je sais que tu vas te limiter parce que...
Oui, c'est parce que moi je suis taxi après, surtout.
Et donc je te cède très rapidement la parole. En plus, ça va être la suite logique de ce qu'on vient d'entendre. Quel ressenti du médecin du sport pour la douleur ?
Bonjour, je remercie surtout Sabine et Sarah de nous avoir invités. Quand on parlait du sujet il y a 2-3 mois, j'ai dit oui sans hésiter. Et ça fait 2-3 mois que je me tracasse sur le sujet parce que comment le traiter vu du point de vue traumatologue ? Et j'ai réussi à comprendre le sujet à partir du moment où je me suis rendu compte que moi, je vois 25 sportifs par jour. Et c'est 25 personnes qui ont mal. Et donc voilà. Et donc ça a été un peu long à mettre en route. Et c'est pour ça que j'ai eu du mal à avoir le recul pour essayer de vous présenter ce qu'on fait en fait au quotidien, nous, à la clinique du sport. Et sur le terrain également. Donc la première question qu'on se pose, c'est de savoir si la douleur est pathologique chez le sportif. Est-ce que c'est une douleur liée d'effort ou est-ce que c'est une douleur liée à la blessure ? David en a bien parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a des douleurs. Vraiment liés à l'effort et à l'entraînement, qui sont vraiment normales, physiologiques. Et puis après, toutes les blessures, tous les traumatismes, on va essayer de détailler ça. On va faire un corollaire avec le monde du travail, avec la médecine du travail. Au travail, il est impensable d'avoir mal, alors que dans le monde du sport, vraiment la douleur est permanente et fait partie intégrante de ce milieu. Est-ce que pour être performant, est-ce qu'il faut souffrir, est-ce qu'il faut avoir mal pour être performant? C'est une vaste question et c'est très difficile. Je crois que vous, psychologues et psychiatres, répondront mieux. Il faudra faire appel aux physiologistes aussi, mais c'est vraiment très difficile à répondre à cette question. Il y a Trenor qui a juste montré que la lombalgie diminuait les performances à l'effort. C'est les seules études que j'ai retrouvées sur le sujet, quoi. On parlait tout à l'heure, David parlait également de la souffrance en entraînement de son premier stage, où c'est encore une culture, contrairement à ce qu'il dit, c'est encore culturel d'apprendre à se faire mal à l'entraînement pour souffrir, pour résister à cette douleur, pour maîtriser cette douleur. Et dans les sports individuels comme le cyclisme, l'athlétisme, le rugby, rugby qui est un sport collectif mais qui est une culture de douleur où c'est quasiment deux équipes face à face, c'est-à-dire deux équipes dans la même équipe, il y a le rôle des avant et le rôle des arrières qui sont vraiment complètement différents, et devant ils ont vraiment cette culture de la douleur, de la souffrance, le judo également. Et à l'entraînement, David nous disait tout à l'heure que c'est fini les entraînements où on finit éreinté, parce qu'il y a des entraînements de vitesse où à la fin de l'entraînement on est bien à la fin de l'entraînement, mais pendant la période de travail qui est très courte pendant ces entraînements-là, qui peuvent être de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, vraiment le sportif, il a très très mal. Il souffre vraiment pendant ces 2 minutes. Après, il y a 2-3 minutes de récupération, et ainsi de suite. C'est des cycles comme ça dans l'entraînement. C'est vrai qu'à la fin de la journée, il n'est pas éreinté, il ne va pas se coucher directement, mais pendant cette période de travail, il y a une réelle souffrance, une réelle douleur musculaire. Et c'est le principe de la surcompensation physiologique que Martine parlait également ce matin un petit peu, d'entraîner une fatigue musculaire pour, après une période de repos, augmenter ses performances. Et c'est vraiment culturel, cette phrase, j'ai trouvé très forte, c'est que la natation est un univers de torture, comme sous l'Inquisition on invente des objets dans le seul but de souffrance, et lorsqu'après bien des épreuves la victime touche au but, il faut bien souvent faire demi-tour. Je trouve que ça résume bien l'entraînement en natation et dans beaucoup de sports individuels. Toujours dans certains sports, on apprend à se faire mal, c'est en recherche d'amplitude articulaire. Pourquoi ? Parce que c'est la beauté dans les sports qui sont jugés comme la gym. Entre la gymnaste qui a un grand écart parfait à 180 degrés et celle qui en a un moins bien à 170, 175 degrés, ben la note va pas être la même. Et du coup, la performance, le résultat sportif va être différent. C'est pareil pour le pitcher au baseball. S'il a une amplitude articulaire, s'il se déboîte carrément l'épaule au moment de son lancer, il va avoir une vitesse de balle plus rapide et donc il va être plus performant dans son sport également. En danse, c'est encore plus vrai, où la danse classique, non seulement il y a une culture de la douleur, mais en plus, il faut souffrir en ayant le sourire. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas le droit de le dire qu'elles ont mal. C'est mal vu, il faut, lors du spectacle, elles souffrent, ils souffrent parce qu'elles sont danseurs aussi, mais ils doivent garder le sourire en plus. Donc c'est vraiment l'éducation, l'entraînement de souffrir, mais en gardant le sourire. Très peu d'études sur la douleur chez le sportif. Objectivement, donc il y a quelques études randomisées et contrôlées qui montre qu'en fait le sportif a un seuil de la douleur supérieur au non-sportif. Désolé mesdames, aussi que l'homme a un seuil de la douleur supérieur à la femme. Ça, qu'il soit sportif ou non-sportif. En fait, ce qui fait souvent la différence en compétition, s'il y a capacité physique égale, entre deux coureurs de 400 haies ou entre 1 km/h en natation ou un 400 mètres en natation, les capacités physiques, physiologiques sont quasiment les mêmes. Mais après, c'est cette capacité à supporter la douleur, à supporter la montée des lactates dans les muscles au moment de l'effort qui va faire la différence. Ce que disait David tout à l'heure, c'est vraiment s'habituer à la fin du combat des 5 minutes. C'est celui qui va réussir à tenir, à fermer le poing, qui va réussir à coucher l'autre par terre. Et dans beaucoup de sports où il y a le chrono compte, les millièmes vont se jouer à ça, cette façon de supporter, à cette capacité à supporter la douleur. Juste pour référence, un homme sédentaire va supporter un taux de lactate entre 6 et 8 millimoles maximum. Un sportif de niveau régional va monter à 10-14. Tandis qu'un sportif international, quand Arnaud Tounant bat le record du monde du kilomètre, il est monté à 18-20 millimoles par litre de lactate, ce qui est énorme, et ce qui a en plus nécessité, là on le voit sous oxygène, c'était à l'entraînement, mais après son record du monde, après sa performance, il a dû rester une demi-heure, trois quarts d'heure sous oxygène. Alors c'était à La Paz, à 3000 mètres d'altitude, mais c'est quand même s'imposer des souffrances énormes pour réussir la performance. C'est un record du monde qui tient toujours. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, moi, mon seul motif de consultation, quand je reçois un nouveau sportif ou une nouvelle personne, c'est le seul motif, seul et unique, c'est la douleur. Il vient parce qu'il a mal. Il a mal quelque part, il a mal au genou, aux chevilles, au dos, à l'épaule, mais il a mal. Il y a deux types de douleurs. Il y a les douleurs chroniques et les douleurs aiguës. Donc, après, il y a... Oui, ça fait mal. Est-ce que l'importance de la douleur est liée à l'importance, à la gravité de la blessure? Ce n'est pas toujours le cas. Là, évidemment, Djibril Cissé, il a sûrement eu très très mal sur le coup, et sa blessure est très très, très grave pour lui. On se rappelle tous, c'était juste une semaine avant de partir en Allemagne pour un championnat du monde. Mais un footballeur, des fois on voit les footballeurs se rouler, faire 10 tours sur le terrain avant de s'arrêter et souffrir, et puis 3 minutes après, ils galopent et ils vont marquer le but. Prenez un coup sur le tibia, ça fait très 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 mal. C'est pas grave, mais c'est horriblement douloureux. Ils ont des protège-tibia qui sont grands comme plus petits que ma main, qui protègent rien du tout. Et contrairement aux rugbyman qui sont préparés à prendre des coups pendant le match, un footballeur n'est pas du tout préparé. Normalement, il est libre, il n'est pas du tout gainé, il s'attend pas du tout à en prendre un. Et quand il prend un coup de crampon sur le tibia, c'est affreusement douloureux. Comme quand vous cogniez le tibia sur le coin d'une table, c'est horriblement douloureux pendant 2-3 minutes. Après, vous avez oublié, au bout de 10 minutes, vous l'avez complètement oublié. Et c'est le cas qui se produit. Donc il faut essayer de faire la différence entre douleur, et importance de la douleur et gravité de la blessure, c'est qui n'est pas toujours corrélé. En micro-traumatologie, en fait, souvent la douleur, c'est une douleur qui cède à l'effort, souvent les tendinites, et ça ne diminue pas la performance, et souvent négligée par le sportif. Comme disait tout à l'heure, dans l'épaule, en plus, on dit, oh, tiens, on va pas le montrer qu'on a mal, on va pas le dire. Et en fait, ils consultent à partir du moment uniquement où la douleur influe sur la performance ou influe sur la qualité de l'entraînement, ou diminue la performance. Et là, ils arrivent en consultation, ils disent, je ne comprends pas, j'ai rien de particulier, j'ai continué mon entraînement, j'ai rien. Et puis, en fait, ils commencent à avoir des blessures sérieuses qui diminuent la performance, et c'est de la micro-traumatologie. Le cas typique, c'est le danseur qui a une fracture de fatigue au niveau du tibia, qui continue à danser parce qu'il y a le spectacle, c'est la tournée, c'est la représentation, c'est la saison. Et puis, il faut continuer, parce que s'il continue, il va avoir un rôle plus important la saison d'après. Donc, il y a cette compétition également dans la danse. Et en fait, il s'arrête quand la fracture de fatigue devient une fracture vraie du tibia, qui sur scène, il s'écroule, et qu'il est obligé de passer au bloc opératoire, ce qui aurait pu être évité avant, mais qui est très difficile dans ce monde de compétition également. On va faire le parallèle entre le sportif et le non-sportif. Moi, la première chose que je demande à quelqu'un qui rentre dans mon bureau, c'est qu'est-ce qui vous arrive? Vous venez à pourquoi? Le non-sportif, le cas typique, la caricature, évidemment, on est dans la caricature, il ne va pas vous dire « je suis blessé », il va dire « j'ai un accident du travail ». Moi, je ne connais pas ce quoi. Il va venir avec le papier sur la table, il va montrer « j'ai un accident du travail ». Là, vous savez que la consultation, le soin, ça va être pénible. Tandis que le sportif, ça va être très très long. Et le sportif, il va venir directement avec le diagnostic. Je me suis claqué, je me suis fait une entorse, je me suis luxé l'épaule. Et c'est la différence. Et l'autre différence, c'est le sportif, il va dire, je reprends quand? J'ai envie de reprendre. Quand est-ce que je peux reprendre? Et le non-sportif, il va dire, vous me faites un arrêt de travail quand même, là. Je peux pas aller travailler, c'est pas possible. Et donc là, la différence dans la consultation au niveau de traumato, moi je suis pas du tout psychologue, mais c'est que le sportif, il va falloir plutôt le freiner. Et le non-sportif, il va falloir plutôt essayer de le stimuler, ce qui est très difficile. Dans l'évolution de la blessure, on a la première phase, c'est la phase de cicatrisation. Donc le sportif, il doit accepter la blessure, il ne comprend pas pourquoi il s'est blessé. Il se dit, merde, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'étais bien, j'étais en forme, il y a les championnats dans 2 mois. Comment je vais faire? Ça va être difficile. Il y a cette phase, et en fait, ça correspond également à la phase de cicatrisation psychologique. Je pense qu'elle correspond à la phase de cicatrisation physique. On attaque une deuxième phase, après, c'est la phase propre de la rééducation. Et là, pour la première fois, pour le sportif, on va respecter la douleur. On va lui dire, non, maintenant, tu t'es blessé, on va y aller doucement. Tu vas reprendre ton corps en main, il va falloir que tu te réhabitues. On va faire soigner, on va faire cicatriser et on va respecter la douleur. On va essayer de lui faire comprendre qu'il doit respecter la douleur. Et en fait, nous, en traumato du sport, le plus souvent, la douleur correspond à l'impotence fonctionnelle. Je dis bien le plus souvent, mais ce n'est pas toujours le cas. Quand le sportif se blesse dans le cadre de son sport, le footballeur, le rugbyman qui se rompt le croisé dans le cadre de son sport, c'est catastrophique, entre guillemets, parce que ça va être 6, 8 mois, 10 mois d'arrêt. Et il va pouvoir reprendre son sport quand il retrouvera la fonction de son genou. Un cycliste qui se blesse au genou, qui se rompt le croisé quand il va faire un week-end de ski ou parce qu'il a fait une partie de foot avec le copain l'hiver à l'intersaison, eh ben, on n'aura pas du tout la même conséquence. Il va retrouver la fonction de pédaler beaucoup plus rapidement, 15 jours, 3 semaines après, 1 mois après. Il sera de nouveau, son genou sera de nouveau fonctionnel pour son sport. Donc il y a cette dichotomie entre douleur et impotence fonctionnelle. Et quand on dit au sportif, c'est grave, tu t'es blessé, t'en as pour 8 mois, la douleur, il a le ressenti de la douleur beaucoup plus importante. Au cycliste, on lui dit, bon, tu t'es rompu le croisé, mais dans 15 jours, 3 semaines, tu t'entraînes normalement. La douleur va passer beaucoup plus rapidement. Et ce que disait David tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même le versant psychologique, et je pense que les psychologues et psychiatres l'ont évoqué beaucoup plus que moi tout à l'heure. Mais nous, en traumatologie du sport, on attache une importance à la douleur, mais on attache surtout une importance à la fonction. Et la troisième phase dans la rééducation, c'est la réathlétisation. Donc on va continuer à respecter la douleur. Et on va surtout essayer de retrouver la fonction du membre qui a été blessé. Et on va essayer de reconstruire le sportif, à ce qu'il redevient un sportif, qu'il retrouve son niveau. Et comme disait tout à l'heure David, quand il s'arrête 15 jours, 3 semaines, quand il reprend l'entraînement, il a mal partout. Et bien on va essayer de lui réapprendre à avoir ces douleurs liées à l'effort, ces douleurs qui sont tout à fait naturelles dans l'effort. Et après, il y a une question, et la douleur est toujours présente, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est une douleur liée à la blessure ou est-ce que c'est une douleur liée à la reprise? Et c'est là qu'en tant que traumato, on va essayer de faire la part des choses, qui n'est pas toujours facile et qui est vraiment... on va toujours continuer de parler de la fonction, ces douleurs qui ne le gênent pas dans son entraînement. Parce que parfois, j'ai mal au... Du coup, il y a des douleurs qui décompensent parce qu'ils sont désadaptés. Et c'est vraiment ce rôle-là de la réalisation avec le kiné, avec le préparateur physique qui rentre en jeu. J'ai fini dans 30 secondes. Et donc c'est à partir de ce moment-là que le sportif comprend qu'il n'est plus invulnérable et que la blessure fait partie intégrante de son sport, contrairement au monde du travail où il est intolérable d'avoir mal, il n'est pas acceptable qu'un ouvrier à l'usine, à la chaîne, ait mal. Donc par contre, la douleur du sport est vraiment fait partie intégrante. Et cette phrase d'Antoine Enaria qui est vraiment réelle, c'est Antoine, il n'avait plus peur de tomber, c'est pas la peur de tomber qu'il avait mal. C'est la peur de se faire mal qu'il avait, c'est la peur de la nouvelle blessure, et c'est la peur de l'arrière de sa carrière. Et c'est ça qui l'a fait arrêter, c'est pour ça qu'il freinait, c'est pour ça qu'il allait moins vite. C'est pas la peur de tomber, c'est vraiment la peur de se faire mal. Je vous remercie de votre attention.
Merci beaucoup. Est-ce que tu as encore le temps de répondre à 2 questions? Allez. Donc sur le regard du médecin du sport, sur la douleur du sportif, est-ce que vous avez des questions?
Voilà, au niveau des origines de cette douleur, qu'en est-il? Est-ce que vous en prenez en compte? Je suppose que vous les prenez en compte dans le cadre d'un sportif de haut niveau, et également chez les autres sportifs, et comment justement ça fonctionne vis-à-vis ensuite de ne pas vouloir refaire la même erreur?
Nous, on est en relation avec de nombreux entraîneurs à tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau régional ou au niveau national ou international, avec les préparateurs physiques aussi. Et effectivement, quand il y a une blessure, alors quand c'est une luxation d'épaule parce que le gars il s'est fait prendre dans la mêlée, il n'y a pas réellement de cause à part le traumatisme lié à la mêlée. Après, quand c'est des blessures musculaires, effectivement, à l'Union au rugby, là, en début de saison, on a eu énormément de blessures musculaires. Et on a discuté avec les entraîneurs, avec les préparateurs physiques. et on va mettre quelque chose de différent en place pour la saison prochaine. Mais on essaye de, toujours de, d'avoir cette relation, et c'est important d'avoir ce dialogue avec les entraîneurs, les préparateurs physiques, les kinés, le médecin. Mais voilà. Donc, mais nous, on intervient en tant que traumatologue, on intervient surtout après la blessure, effectivement. On fait de la prévention secondaire, pas souvent la prévention primaire, on fait surtout la prévention secondaire.
Une autre question ?
J'ai constaté, en tant que sportive et en tant que psychologue, en intervenant dans les sports comme la natation, par exemple, que donc, effectivement, comme vous avez dit, la douleur, c'est vraiment le conditionnement de la performance. C'est ce que, avant de partir pour une course, on se dit, il faut que je me fasse mal, sinon je n'y arriverai pas. Et vous avez parlé dans la rééducation après la blessure de cette verbalisation des sensations en lien avec la douleur et de justement nommer cette douleur pour mieux la comprendre. Et j'ai l'impression que dans les sports comme le vélo, la natation, tout ça, on n'en parle pas assez justement de cette douleur-là et que ça devient quelque chose d'un peu fantasmé ou quelque chose d'un peu qui nous fait peur en fait. Et j'ai l'impression qu'en essayant de la verbaliser plus, d'en prendre conscience et de vraiment détecter les différentes sortes de douleurs et tout ça, et ben ça permettrait peut-être aux sportifs de mieux l'accepter, d'en avoir moins peur. Et donc je demandais aussi s'il y avait eu des études là-dessus, sur justement cette acceptation psychique de la douleur, mais pas en lien avec la blessure, la douleur liée à la performance et à l'effort physique.
Alors pour la douleur dans le cyclisme, moi je viens du vélo et je suis vraiment bien impliqué au niveau de la Fédé. La douleur au niveau entre cyclistes, on en parle énormément parce que c'est vraiment les douleurs musculaires et vraiment à l'entraînement, on parle vraiment de se faire mal. Et quand je disais tout à l'heure qu'il y a des périodes sur les entraînements de vitesse ou course, quand ça a 30 secondes, une minute, où vraiment ça brûle de partout, quand on voit le Arnaud Tournant qui bat son record de l'heure, son record de kilomètre, pardon. Je peux dire que ça brûle partout du dernier orteil jusqu'aux oreilles. Vraiment, ça fait très très mal. Donc, c'est verbalisé à l'entraînement et on le dit, on s'est fait mal après une course. Je me suis fait mal là. C'est vraiment verbalisé, mais c'est des douleurs musculaires. C'est des douleurs naturelles d'effort. C'est lié, entre guillemets, c'est lié au lactate. Après, pour les études de psychite, j'arrive. C'est la dernière question. J'arrive. Je suis là. C'est plutôt aux psychologues et aux psychiatres qui vont répondre à ça.
On va terminer, si vous voulez bien, cet atelier en donnant la parole au docteur Seznek, médecin psychiatre qui arrive du Kremlin-Bicêtre. Sport et souffrance.
Alors, d'abord, merci au CAPS de Bordeaux de m'avoir proposé de parler sur ce sujet. Tout d'abord, j'avais intitulé, là, j'ai mis sport et douleur, mais j'ai mis comme titre sport et souffrance. Et c'est intéressant parce que, en fait, je pense avoir mis le titre de l'atelier sur mon diaporama. Et c'est en arrivant ici que j'ai vu que j'avais interprété la chose. Mais bon, je suis psychiatre, donc du corps-objet, j'en ai fait un corps humain, puisque de la performance, moi, j'ai vu le sport, activité sociale. Et puis de la douleur, qui est une information sensorielle, j'ai vu la souffrance, qui est une émotion. Donc ça m'a titillé. Alors déjà, par rapport au sport, il faut savoir quand même qu'on arrive à la performance et à la douleur, alors qu'au départ, c'est quand même une invention, c'était une distraction qu'on a un petit peu oubliée, qui n'est pas si ancienne que ça, parce que c'était inventé au XIXe siècle par les Anglais. Et au fond, c'était la bourgeoisie anglaise qui a développé finalement un passe-temps qui était finalement une nouvelle forme sociale de l'affrontement, qui était en adéquation avec l'évolution de la société industrielle. Et le sport, va suivre le modèle de notre société occidentale. D'ailleurs, si ça a été inventé par les Anglais, le sport a été développé par les Français. Et Coubertin a créé tout un mythe et a repris toute une mythologie qui va conduire le sportif dans cette démarche de l'héroïsation dont j'ai parlé par la suite. Euh, Et donc ce sport, finalement, la vitalité sociale qu'est le sport, va épouser finalement toutes les questions existentielles de notre société, qui était la question de l'identité, le phénomène de la médiatisation, de la société du spectacle, la place de la femme dans la société, la place de l'homme dans le système économique, son positionnement en lien avec le développement des technologies et de la science. Et d'ailleurs, on se demande même si maintenant, dans le sport futur, si le sportif ne va pas être un faire-valoir de la technologie. Des gens comme Jean Vautier se demandent finalement qui monte sur le podium. Et c'est toute cette démarche-là, dans le rapport au sport, qui va parler du rapport à cette douleur, à la souffrance au sport, que je vais parler par la suite. Donc l'histoire du champion, hein, c'est vraiment pour accepter cette douleur, le sportif va rentrer dans cette dynamique du champion, et ce champion est bien utile à tout le monde, à la société, à la nation. Il va y avoir une véritable identification, et on s'identifie d'autant plus au champion que celui-ci a réussi à surmonter quelque chose de grand, et notamment ce que dit Pocello, il appelait ça, j'ai appelé l'effet Carpentier, cet effet de théâtralisation sportive qui s'impose à tous dès lors que sont mis en lice deux adversaires dont les traits physiques et stylistiques sont dissemblables, morphologie et esthétique, posture, immobilité, style de jeu et conception tactique. C'est comme ça que quelqu'un comme Alain Giresse a été très happé par les médias, parce qu'il n'avait pas le physique au départ, et il a réussi à surmonter, à dépasser quelque chose. Et on est tous enflammés quand un sportif dépasse la douleur. On se souvient de Jean-Pierre Rive saignant au cours d'un match de rugby, des images de souffrance quand on arrive à gagner après une telle épreuve. Et il y a quelque chose de finalement très mystique là-dedans. Et c'est vrai que ces sportifs, hein, ils ont une vie hors du commun dans leur rapport au corps, leur rapport à la société. Je m'intéresse pas mal au vélo, et j'étais très surpris quand je les interroge, ils me disent tous « c'est beau le vélo ». Pourtant, l'esthétisme du cuissard, ça n'a jamais été repris par des grands couturiers, donc c'est que la beauté ne se situe pas là. Et en fait, il y en a un qui m'a dit « ce qui est beau dans le cyclisme, c'est qu'au départ, nous sommes tous égaux, à la fin, il faudra qu'un seul arrive à s'extirper pour arriver à gagner. C'est comme une deuxième chance, car dans la vie, nous ne sommes pas égaux. Ben, » finalement, moi, ça me donne à penser. La première course fondatrice que je connais, hein, c'est la course des spermatozoïdes. Et finalement, on se demande si dans le sport, dans cette passion de la compétition, on n'essaie pas éternellement de rejouer cette première course. Et comme elle est on ne peut pas la rejouer, et ben finalement, ça crée cette addiction à la gagne, cette passion à la compétition, parce qu'on voudrait finalement pouvoir refaire cette course. Donc vous verrez le Tour de France d'une autre manière face à cette image. Il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été faites. Pourquoi on fait du sport ? Il y a des gens qui ont dit probablement que le sportif, il souffrirait d'un sentiment d'infériorité au départ, d'éléments dépressifs que l'acte sportif viendrait compenser. Bosch dit que le sport est comme fonction de masquer une image intime défaillante afin de restaurer l'image narcissique, et que le sportif rechercherait dans ses résultats et ses performances la reconquête d'un état de toute puissance. Il n'arrive pas à renoncer à la perfection narcissique de son enfance qu'il n'a pas su maintenir ou transformer. Finalement, à travers le sport, la douleur et la souffrance, il va vouloir changer un petit peu le sort de sa condition initiale. Et finalement, certains auteurs se demandent si finalement pratiquer du sport, c'est pas un symptôme de la relation d'objet qu'entretient l'athlète et de sa fragilité narcissique. Alors, à travers le sport et la souffrance, se pose la question de l'or d'Ali. L'or d'Ali, je vous rappelle, c'est une épreuve dont l'enjeu est la vie. C'est-à-dire, pour avoir le droit de vivre, l'individu tente d'échapper à la mort dans l'épreuve. C'est au Moyen-Âge, c'est-à-dire quand on était accusé d'être coupable, il fallait chercher une pièce dans un dans un chaudron d'eau bouillant. Et si on arrivait à attraper la pièce sans être brûlé, ça veut dire qu'on n'était pas coupable, donc on avait le droit de vivre. Si on était brûlé, on mourrait. Condamné. Et Lord Ali a donné après les duels, finalement on appelait au jugement de Dieu pour séparer les personnes, et c'est ce qui se joue finalement à travers les conduites à risque dans certains sports, et c'est quelque chose finalement qui se joue beaucoup dans l'adolescence, où à cette difficulté d'être, hein, on essaye finalement de s'éprouver, et le sport est un très beau terrain pour s'éprouver, pour tenter ce jugement de Dieu, pour avoir le droit d'exister hors du giron familial, se détacher du corps parental, du désir des parents, afin de d'être un être humain, et cette épreuve passe par l'épreuve de la douleur. Alors finalement, on peut classer les activités sportives en différentes activités, les activités de jeu, les activités de confrontation directe en face à face, les activités d'épreuve, les activités de vertige, et on peut se demander si dans ces activités, la douleur n'a pas la même fonction. Je disais qu'au XIXe siècle, le passe-temps, c'était finalement pour les aristocrates anglais de courir. Maintenant, le passe-temps pour les aristocrates et les bourgeois de notre société, c'est plutôt les sports de vertige, les sports qui ont à la mode, hein, c'est le kitesurf, le saut en élastique, hein, c'est toutes ces choses-là. Et on voit bien comment la société a évolué et comment les activités sportives ont évolué. Et d'ailleurs, je reprendrai à la fin que le rapport à la douleur a évolué, puisqu'on est dans une société hédoniste, hein, et autant on acceptait la douleur, hein, dans les activités d'épreuve, où l'exploit était valorisé, dans les activités de vertige, finalement, ce n'est pas ce qui est recherché. Précisons un certain nombre de choses. La douleur, c'est une perception sensorielle. C'est un signal qui annonce une rupture d'homéostasie. L'homéostasie, je vous rappelle, c'est un équilibre fragile, hein, entre de nombreux déséquilibres. Elle donne une indication au corps pour qu'il y ait une action pour rétablir l'équilibre. Et finalement, la mort est une rupture définitive de cette homéostasie. La souffrance est une émotion qu'engendre la douleur. Et il y a une forte composante psychologique, hein, dans cette émotion. Toute douleur ne donne pas forcément une souffrance. Précisons aussi que le masochisme, c'est la jouissance ou le plaisir que l'on peut tirer d'une douleur. Dépasser la douleur et donc les limites vitales, c'est mettre en jeu un désir de puissance infantile. C'est faire le pari qu'au-delà de cette douleur, ça sera mieux. C'est tenter d'accéder à un statut symbolique, hein, qui est repris dans le domaine sportif, hein, dans le vélo, atteindre les Champs-Élysées, être un dieu du stade. Je suis désolé, il y a une faute, je viens de voir. C'est finalement prouver son émancipation par rapport au corps, à ce corps parental, son autonomie, et pouvoir finalement, dans cette épreuve ordalique, conjurer l'angoisse, et l'angoisse de vie, l'angoisse existentielle. La douleur, pour le sportif, elle joue avec le sens. Aux choses. La douleur remplit une fonction identitaire. La performance est un pacte symbolique avec la souffrance. L'entraînement consiste à apprivoiser la souffrance de l'épreuve. C'est un sacrifice régulier d'une part de douleur à chaque entraînement pour être le meilleur le jour de la compétition. Le sportif va négocier constamment avec ce seuil de la douleur pour qu'elle soit supportable le jour de l'entraînement. Un lanceur de javelot qui avait mal au dos, hein, du fait de la répétition de son geste, disait « Demain, il peut m'arriver n'importe quoi, et alors ? Souffrir est normal, la douleur est mon univers. » Guy Delage, en traversant l'Atlantique à la nage, disait « Je tiens à faire l'expérience de la douleur après avoir fait celle de la terreur en ULM au-dessus de l'Atlantique. » Et donc, il y a tout un enjeu symbolique, porteur de sens, hein, pour l'athlète qui va essayer d'aller au bout de la difficulté. Il va s'infliger, la douleur qui s'inflige lui procure une légitimité d'exister, qui trouve là une voie symbolique pour s'étayer. La limite physique vient remplacer les limites de sens, qui ne donnent plus l'ordre social. et donc sous la forme symbolique de l'activité physique ou sportive, se joue une reprise en main de son existence. Alors, le travail au bord de cette limite pose différentes questions. Peut-il y avoir travail et progrès sans douleur ? D'ailleurs, la notion de progrès est une notion culturellement liée, comme le sport. Il y a les problématiques endurcissement, obéissance, apprentissage, réussite. Mais jusqu'à quelle limite on peut malmener ce corps ? D'ailleurs, je vous parlais du côté mystique. C'est une idée qui vient du médiéval français, cette idée rédemptrice, que l'âme serait sauvée par l'expiation douloureuse, et qui a été très ancrée dans la culture française. Alors le sportif, comment il va réagir à cette douleur ? Certains vont tenter de la dépasser, de la contrôler. On a vu qu'il pouvait y avoir un déni de cette douleur. Elle peut être instrumentalisée aussi pour s'extraire du cadre sportif, parce que quand le sportif est l'objet de tant de désirs, de tant de monde, il est le désir de l'entraîneur, de la famille, du public, ben d'avoir mal, parfois ça lui permet de s'extraire de ce lieu de contrainte qui est le domaine du sport. Il peut y avoir aussi une position masochiste de la part du sportif et trouver des bénéfices secondaires à cette douleur. D'être un sportif qui a mal, ben, ça peut donner aussi une identité, comme il est difficile d'être, c'est le jeu classique victime bourreau sauveteur, il est facile, plus facile parfois d'être la victime du sport, finalement de cette malchance, et de trouver une identité à travers cette douleur. Mais en même temps, pour le sportif, il peut utiliser finalement une sorte de masochisme névrotique, de perversion névrotique à la douleur, où finalement ça lui permet d'accéder à un premier plaisir, en attendant un plaisir secondaire par la suite. Par exemple, le marathonien, le plaisir de la victoire, il ne l'aura pas tout de suite. Il y a quand même 40 km des poussières à courir. Donc, à travers un peu de masochisme névrotique, il a un peu de plaisir dès le début de la course. Donc, à quel moment ça passe dans quelque chose d'excessif ? Dans la douleur chronique que rencontrent les sportifs, il y a aussi de la psychopathologie derrière. Souvent, on dit que la douleur chronique peut être la résultante de la transformation inacceptable pour l'économie psychique. Finalement, il peut y avoir un conflit pour le sportif entre l'impossibilité d'être un héros et l'impossibilité à renoncer aux rêves, aux désirs, aux mythes du sport. Et finalement, la douleur permet de rester dans un entre-deux. Dans la douleur chronique, quand fait parler les êtres, souvent avant le traumatisme qui a donné cette douleur, il y a un ancien traumatisme. Cet traumatisme peut être aussi de la violence. Et on a vu la maltraitance qu'il y a dans le monde du sport, la maltraitance sexuelle dont on nous a parlé tout à l'heure. Et finalement, la douleur chez le sportif peut parler d'autre chose que le traumatisme qui a donné cette douleur. Dans la douleur de la maltraitance, finalement, il y a une connexion entre douleur, culpabilité, punition, et finalement, ça serait un mécanisme de défense à la culpabilité ou à la dépendance affective. Quand il est difficile de nommer les choses, il est plus facile d'avoir mal et puis de déplacer cette douleur morale sur une douleur physique. Il y a un aspect aussi conditionnement à la douleur. Finalement, quand on va tout le temps à la douleur, la douleur appelle une réponse par des antalgiques, et finalement on se conditionne de façon très pavlovienne, quand on est sportif, à prendre des médicaments comme ça. Quand on traite la douleur chronique, finalement on essaye de désynchroniser la prise de médicaments avec la douleur. Et de même, quand on fait travailler les gens sur les gestes qui font mal, on ne leur dit pas d'aller jusqu'au bout de la douleur pour désapprendre ce comportement. Et peut-être c'est des pistes dans la rééducation pour réapprendre aux sportifs de ne pas tester la limite de la douleur pour l'arrêt de sa rééducation. Et puis il y a plein de comorbidités avec la douleur chronique, la dépression qu'il faut aller chercher chez le sportif qui peut-être ne peut pas la verbaliser. Il y a des dépendances, il y a des troubles anxieux et un certain nombre de troubles de la personnalité derrière qui peuvent s'exprimer à travers cela de type histrionique, dépendante, narcissique, borderline. Ce qui me gêne dans tout cela, c'est dans l'épreuve de la douleur, c'est quand même quelque chose d'individuel. Mais ce qui me gêne, c'est quand même son spectacle. Et se pose des questions de l'exhibitionnisme, du voyeurisme. Est-ce qu'on peut faire commerce de la douleur de l'autre, hein, quand on montre ça à la télévision, quand il y a toute une industrie du sport autour de cela? Je crois que le rapport à la douleur, c'est quelque chose d'intime et de personnel. Où est la norme là-dedans? Ça, je ne sais pas. Il y a une dimension hors d'un link. Jusqu'à quelle limite l'individu qui est libre de s'éprouver à la douleur, il peut le faire? Et je pense que l'une des questions, c'est dans cette industrie du sport, puisque maintenant, ce n'est plus une démarche personnelle de héros, finalement, c'est que faire avec cette médiatisation de cette douleur, cette industrialisation de cette douleur, quand le sport ne peut plus s'appuyer sur l'incertitude du sport, puisqu'il faut que le spectacle ait lieu à chaque fois que ça passe à la télévision. Moi, c'est ce qui me pose question. Voilà, je vous remercie.
Merci beaucoup. Il y a d'ailleurs beaucoup d'hypoglycémie. Eh bien, je vais conclure cet atelier, donner rendez-vous à 14h pour une session éminemment importante sur entraînement et maltraitance. Bon appétit à tous.